Il ne faut pas se laisser tromper par des particularités purement formelles qui tiennent à l'époque, à la vie de salon, et qui font que certaines personnes croient qu'elles ont fait leur sévigné quand elles ont dit « Mandez-moi ma bonne » ou « Ce comte me parut avoir bien de l'esprit » ou « Fanée est la plus jolie chose du monde ». Déjà, Madame de Simiane s'imagine ressembler à sa grand-mère parce qu'elle écrit « Monsieur de la Boulie se porte à merveille, monsieur, et il est fort en état d'entendre les nouvelles de sa mort. » Ou « Oh, mon cher marquis, que votre lettre me plaît, le moyen de ne pas y répondre. » Ou encore « Il me semble, monsieur, que vous me devez une réponse, et moi des tabatières de Bergamote. Je m'en acquitte pour 8, il en viendra d'autres. » Jamais la terre n'en avait emporté. C'est apparemment pour vous plaire. Et elle écrit dans ce même genre la lettre sur la saignée, sur les citrons, etc., qu'elle se figure être des lettres de Madame de Sévigné. Mais ma grand-mère, qui était venue à celle-ci par le dedans, par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés qui sont tout autres. Elle devait bientôt me frapper, d'autant plus que Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses, Elstir. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leurs causes. Mais déjà dans cet après-midi-là, dans ce wagon, en relisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation. Je mets toutes mes coiffes et casaques qui n'étaient pas nécessaires. Je vais dans ce mail dont l'air est bon, comme celui de ma chambre. Je trouve 1000 coquecigrues, des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci, par-là, des hommes ensevelis tout droit contre des arbres, etc. Je fus ravie par ce que j'eusse appelé un peu plus tard « Ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères ?» le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Quand le soir, après avoir conduit ma grand-mère et être restée quelques heures chez son amie, j'eus repris seul le train, du moins je ne trouvais pas pénible la nuit qui vint. C'est que je n'avais pas à la passer dans la prison d'une chambre dont l'ensommeillement me tiendrait éveillé. J'étais entourée par la calmante activité de tous ces mouvements du train qui me tenaient compagnie, s'offraient à causer avec moi si je ne trouvais pas le sommeil, me berçaient de leur bruit que j'accouplais comme le son des cloches à Combray, tantôt sur un rythme, tantôt sur un autre, entendant, selon ma fantaisie, d'abord 4 doubles croches égales, puis une double croche furieusement précipitée contre une noire. Il neutralisait la force centrifuge de mon insomnie en exerçant sur elle des pressions contraires qui me maintenaient en équilibre et sur lesquelles mon immobilité et bientôt mon sommeil se sentirent portés avec la même impression rafraîchissante que m'aurait donné un repos dû à la vigilance de forces puissantes au sein de la nature et de la vie, si j'avais pu pour un moment m'incarner en quelque poisson qui dort dans la mer, promené dans son assoupissement par les courants et la vague, ou en quelque aigle étendu sur le seul appui de la tempête. Les levées de soleil sont un accompagnement des longs voyages en chemin de fer, comme les œufs durs, les journaux illustrés, les jeux de cartes, les rivières où des barques s'évertuent sans s'avancer. À un moment où je dénombrais les pensées qui avaient rempli mon esprit pendant les minutes précédentes, pour me rendre compte si je venais ou non de dormir, et où l'incertitude même qui me faisait me poser la question était en train de me fournir une réponse affirmative, dans le carreau de la fenêtre au-dessus d'un petit bois noir, je vis des nuages s'échancrer, dont le doux duvet était d'un rose fixé, mort, qui ne changera plus, comme celui qui teint les plumes de l'aile qu'il a assimilée ou le pastel sur lequel l'a déposé la fantaisie du peintre. Mais je sentais qu'au contraire cette couleur n'était ni inertie ni caprice, mais nécessité et vie. Bientôt s'amoncelèrent derrière elle des réserves de lumière. Elle s'aviva. Le ciel devint d'un incarnat que je tâchais, en collant mes yeux à la vitre, de mieux voir, car je le sentais en rapport avec l'existence profonde de la nature, mais la ligne du chemin de fer ayant changé de direction, le train tourna. La scène matinale fut remplacée dans le cadre de la fenêtre par un village nocturne au toit bleu de clair de lune, avec un lavoir encrassé de la nacre opaline de la nuit, sous un ciel encore semé de toutes ses étoiles. Et je me désolais d'avoir perdu ma bande de ciel rose quand je l'aperçus de nouveau, mais rouge cette fois, dans la fenêtre d'en face qu'elle abandonna un deuxième coude de la voie ferrée. Si bien que je passais mon temps à courir d'une fenêtre à l'autre pour rapprocher, pour rentoiler les fragments intermittents et opposites de mon beau matin écarlate et versatile, et en avoir une vue totale et un tableau continu. Le paysage devint accidenté, abrupt. Le train s'arrêta à une petite gare entre deux montagnes. On ne voyait au fond de la gorge, au bord du torrent, qu'une maison de garde enfoncée dans l'eau qui coulait au ras des fenêtres. Si un être peut être le produit d'un sol dont on goûte en lui le charme particulier, plus encore que la paysanne que j'avais tant désiré voir apparaître quand j'errais seul du côté de mes églises, dans les bois de Roussainville, ce devait être la grande fille que je vis sortir de cette maison, et, sur le sentier qui illuminait obliquement le soleil levant, venir vers la gare en portant une jarre de lait. Dans la vallée à qui ses hauteurs cachaient le reste du monde, elle ne devait jamais voir personne que dans ces trains qui ne s'arrêtaient qu'un instant. Elle longea les wagons, offrant du café au lait à quelques voyageurs réveillés. Empourprée des reflets du matin, son visage était plus rose que le ciel. Je ressentis devant elle ce désir de vivre qui renaît en nous chaque fois que nous prenons de nouveau conscience de la beauté et du bonheur. Nous oublions toujours qu'ils sont individuels et, leur substituant dans notre esprit un type de convention que nous formons en faisant une sorte de moyenne entre les différents visages qui nous ont plu, entre les plaisirs que nous avons connus, nous n'avons que des images abstraites qui sont languissantes et fades, parce qu'il leur manque précisément ce caractère d'une chose nouvelle, différente de ce que nous avons connu, ce caractère qui est propre à la beauté et au bonheur. Et nous portons sur la vie un jugement pessimiste et que nous supposons juste, car nous avons cru y faire entrer en ligne de compte le bonheur et la beauté, quand nous les avons omis et remplacés par des synthèses où d'eux il n'y a pas un seul atome. C'est ainsi que bâille d'avance d'ennui un lettré à qui on parle d'un nouveau beau livre, parce qu'il imagine une sorte de composé de tous les beaux livres qu'il a lus, tandis qu'un beau livre est particulier, imprévisible, et n'est pas fait de la somme de tous les chefs-d'œuvre précédents, mais de quelque chose que s'être parfaitement assimilé cette somme ne suffit nullement à faire trouver, car c'est justement en dehors d'elle. Dès qu'il a eu connaissance de cette nouvelle œuvre, le lettré, tout à l'heure blasé, se sent de l'intérêt pour la réalité qu'elle dépeint. Telle, étrangère au modèle de beauté que dessinait ma pensée quand je me trouvais seule, la belle fille me donna aussitôt le goût d'un certain bonheur. Seule forme, toujours particulière, sous laquelle nous puissions connaître le goût du bonheur, d'un bonheur qui se réaliserait en vivant auprès d'elle. Mais ici encore, la cessation momentanée de l'habitude agissait pour une grande part. Je faisais bénéficier la marchande de lait de ce que c'était mon être au complet, apte à goûter de vives jouissances qui étaient en face d'elle. C'est d'ordinaire avec notre être réduit au minimum que nous vivons. La plupart de nos facultés restent endormies, parce qu'elles se reposent sur l'habitude qui sait ce qu'il y a à faire et n'a pas besoin d'elle. Mais par ce matin de voyage, l'interruption de la routine de mon existence, le changement de lieu et d'heure avaient rendu leur présence indispensable. Mon habitude, qui était sédentaire et n'était pas matinale, faisait défaut, et toutes mes facultés étaient accourues pour la remplacer, rivalisant entre elles deux ailes, s'élevant toutes comme des vagues, à un même niveau inaccoutumé, de la plus basse à la plus noble. De la respiration, de l'appétit et de la circulation sanguine à la sensibilité et à l'imagination. Je ne sais si, en me faisant croire que cette fille n'était pas pareille aux autres femmes, Le charme sauvage de ces lieux ajoutait au sien, mais elle le leur rendait. La vie m'aurait paru délicieuse si seulement j'avais pu, heure par heure, la passer avec elle, l'accompagner jusqu'au torrent, jusqu'à la vache, jusqu'au train, être toujours à ses côtés, me sentir connue d'elle, ayant ma place dans sa pensée. Elle m'aurait initié au charme de la vie rustique et des premières heures du jour. Je lui fis signe qu'elle vint me donner du café au lait. J'avais besoin d'être remarquée d'elle. Elle ne me vit pas, je l'appelais. Au-dessus de son corps très grand, le teint de sa figure était si doré, si rose qu'elle avait l'air d'être vue à travers un vitrail illuminé. Elle revint sur ses pas. Je ne pouvais détacher mes yeux de son visage de plus en plus large, pareil à un soleil qu'on pourrait fixer et qui s'approcherait jusqu'à venir tout près de vous, se laissant regarder de près, vous éblouissant d'or et de rouge. Elle posa sur moi son regard perçant, mais comme les employés fermaient les portières, le train se mit en marche. Je la vis quitter la gare et reprendre le sentier. Il faisait grand jour maintenant. Je m'éloignais de l'aurore. Que mon exaltation eût été produite par cette fille, ou au contraire eût causé la plus grande partie du plaisir que j'avais eu à me trouver près d'elle, en tout cas elle était si mêlée à lui que mon désir de la revoir était avant tout le désir moral de ne pas laisser cet état d'excitation périr entièrement, de ne pas être séparée à jamais de l'être qui avait, même à son insu, participé. Ce n'est pas seulement que cet état fût agréable, c'est surtout que, comme la tension plus grande d'une corde ou la vibration plus rapide d'un nerf produit une sonorité ou une couleur différente, il donnait une autre tonalité à ce que je voyais. Il m'introduisait comme acteur dans un univers inconnu et infiniment plus intéressant. Cette belle fille que j'apercevais encore, tandis que le train accélérait sa marche, c'était comme une partie de vie autre que celle que je connaissais, séparée d'elle par un liseré, et où les sensations qu'éveillaient les objets n'étaient plus les mêmes, et d'où sortir maintenant eût été comme mourir à moi-même. Pour avoir la douceur de me sentir du moins rattachée à cette vie, il eût suffi que j'habitasse assez près de la petite station pour pouvoir venir tous les matins demander du café au lait à cette paysanne. Mais hélas, elle serait toujours absente de l'autre vie vers laquelle je m'en allais de plus en plus vite, et que je ne me résignais à accepter qu'en combinant des plans qui me permettraient un jour de reprendre ce même train et de m'arrêter à cette même gare. Projet qui avait aussi l'avantage de fournir un aliment à la disposition intéressée, active, pratique, machinale, paresseuse, centrifuge, qui est celle de notre esprit, car il se détourne volontiers de l'effort qu'il faut pour approfondir en soi-même, d'une façon générale et désintéressée, une impression agréable que nous avons eue. Et comme d'autre part nous voulons continuer à penser à elle, il préfère l'imaginer dans l'avenir, préparer habilement les circonstances qui pourront la faire renaître, ce qui ne nous apprend rien sur son essence, mais nous évite la fatigue de la recréer en nous-mêmes et nous permet d'espérer la recevoir de nouveau du dehors. Certains noms de villes, Vézelay ou Chartres, Bourges ou Beauvais, servent à désigner par abréviation leur église principale. Cette acception partielle où nous le prenons si souvent finit, s'il s'agit de lieux que nous ne connaissons pas encore, par sculpter le nom tout entier qui, dès lors, quand nous voudrons y faire entrer l'idée de la ville que nous n'avons jamais vue, lui imposera, comme un moule, les mêmes ciselures et du même style, en fera une sorte de grande cathédrale. Ce fut pourtant à une station de chemin de fer, au-dessus d'un buffet en lettres blanches et sur un avertisseur bleu, que je lus le nom presque de style persan de Balbec. Je traversais vivement la gare et le boulevard qui y aboutissait. Je demandai la greffe pour ne voir que l'église et la mer. On n'avait pas l'air de comprendre ce que je voulais dire. Balbec le vieux, Balbec en terre où je me trouvais, n'était ni une plage ni un port. Certes, c'était bien dans la mer que les pêcheurs avaient trouvé, selon la légende, le Christ miraculeux dont un vitrail de cette église, qui était à quelques mètres de moi, racontait la découverte. C'était bien de falaises battues par les flots qu'avait été tirée la pierre de la nef et des tours. Mais cette mer, qu'à cause de cela j'avais imaginé venant mourir au pied du vitrail, était à plus de 5 lieues de distance, à Balbec-Plage, et à côté de sa coupole, ce clocher que, parce que j'avais lu qu'il était lui-même une âpre falaise normande où s'amassaient les grains, où tournoyaient les oiseaux, je m'étais toujours représenté comme recevant à sa base la dernière écume des vagues soulevées. Il se dressait sur une place où était l'embranchement de 2 lignes de tramway, en face d'un café qui portait, écrit en lettres d'or, le mot « billard ». Il se détachait sur un fond de maison, au toit desquels ne se mêlait aucun mât. Et l'église, entrant dans mon attention avec le café, avec le passant à qui il avait fallu demander mon chemin, avec la gare où j'allais retourner, faisait un avec tout le reste, semblait un accident, un produit de cette fin d'après-midi dans laquelle la coupole moelleuse et gonflée sur le ciel était comme un fruit dont la même lumière qui baignait les cheminées des maisons mûrissait la peau rose, dorée et fondante. Mais je ne voulus plus penser qu'à la signification éternelle des sculptures quand je reconnus les apôtres dont j'avais vu les statues moulées au musée du Trocadéro et qui, des deux côtés de la Vierge, devant la baie profonde du porche, m'attendaient comme pour me faire honneur. La figure bienveillante, camuse et douce, le dos voûté, il semblait s'avancer d'un air de bienvenue en chantant l'Alléluia d'un beau jour. Mais on s'apercevait que leur expression était immuable, comme celle d'un mort, et ne se modifiait que si on tournait autour d'eux. Je me disais, c'est ici, c'est l'église de Balbec. Cette place qui a l'air de savoir sa gloire est le seul lieu du monde qui possède l'église de Balbec. Ce que j'ai vu jusqu'ici, c'était des photographies de cette église et de ses apôtres, de cette Vierge du porche si célèbre, les moulages seulement. Maintenant, c'est l'église elle-même, c'est la statue elle-même, elle, les uniques, c'est bien plus. C'était moins aussi peut-être. Comme un jeune homme, un jour d'examen ou de duel, trouve le fait sur lequel on l'a interrogé, la balle qu'il a tirée, bien peu de choses quand il pense aux réserves de science et de courage dont il aurait voulu faire preuve, de même mon esprit qui avait dressé la Vierge du porche hors des reproductions que j'en avais eues sous les yeux, inaccessible aux vicissitudes qui pouvaient menacer celle-ci, intacte si on les détruisait, idéale, ayant la valeur universelle, s'étonnait de voir la statue qu'il avait 1000 fois sculptée, réduite maintenant à sa propre apparence de pierre, occupant par rapport à la portée de mon bras une place où elle avait pour rivale une affiche électorale et la pointe de ma canne, enchaînée à la place, inséparable du débouché de la grande rue, ne pouvant fuir les regards du café et du bureau d'omnibus, recevant sur son visage la moitié du rayon de soleil couchant, et bientôt dans quelques heures de la clarté du réverbère, dont le bureau du comptoir d'escompte recevait l'autre moitié, gagné, en même temps que cette succursale d'un établissement de crédit, par le relent des cuisines du pâtissier, soumise à la tyrannie du particulier au point que, si j'avais voulu tracer ma signature sur cette pierre, c'est elle, la Vierge illustre que jusque-là j'avais douée d'une existence générale et d'une intangible beauté, la Vierge de Balbec, l'unique, ce qui hélas voulait dire la seule, qui, sur son corps encrassé de la même suie que les maisons voisines, aurait, sans pouvoir s'en défaire, montré à tous les admirateurs venus là pour la contempler, la trace de mon morceau de craie et les lettres de mon nom. Et c'était elle enfin, l'œuvre d'art immortelle et si longtemps désirée, que je trouvais métamorphosée, ainsi que l'église elle-même, en une petite vieille de pierre dont je pouvais mesurer la hauteur et compter les rides. L'heure passait. Il fallait retourner à la gare où je devais attendre ma grand-mère et Françoise pour gagner ensemble Balbec-Plage. Je me rappelais ce que j'avais lu sur Balbec, les paroles de Swann. C'est délicieux, c'est aussi beau que sienne. Et n'accusant de ma déception que des contingences, la mauvaise disposition où j'étais, ma fatigue, mon incapacité de savoir regarder, j'essayais de me consoler en pensant qu'il restait d'autres villes encore intactes pour moi, que je pourrais prochainement peut-être pénétrer, comme au milieu d'une pluie de perles, dans le frais gazouillis des égouttements de Quimperlé, traverser le reflet verdissant et rose qui baignait Pont-Aven. Mais pour Balbec, dès que j'y étais entrée, ça avait été comme si j'avais entrouvert un nom qu'il eût fallu tenir hermétiquement clos et où, profitant de l'issue que je leur avais imprudemment offerte, en chassant toutes les images qui y vivaient jusque-là, un tramway, un café, les gens qui passaient sur la place, la succursale du comptoir d'escompte, irrésistiblement poussée par une pression externe et une force pneumatique, s'étaient engouffrés à l'intérieur des syllabes qui, refermés sur eux, les laissaient maintenant encadrer le porche de l'église persane et ne cesseraient plus de les contenir. Dans le petit chemin de fer d'intérêt local qui devait nous conduire à Balbec-Plage, je retrouvais ma grand-mère, mais l'y retrouvais seule, car elle avait imaginé de faire partir avant elle, pour que tout fût préparé d'avance, mais lui ayant donné un renseignement faux n'avait réussi qu'à faire partir dans une mauvaise direction, Françoise qui en ce moment, sans s'en douter, filait à toute vitesse sur Nantes et se réveillerait peut-être à Bordeaux. À peine fus-je assis dans le wagon rempli par la lumière fugitive du couchant et par la chaleur persistante de l'après-midi, la première, hélas, me permettant de voir en plein sur le visage de ma grand-mère combien la seconde l'avait fatiguée, elle me demanda « Eh bien, Balbec ?» Avec un sourire si ardemment éclairé par l'espérance du grand plaisir qu'elle pensait que j'avais éprouvé, que je n'osais pas lui avouer tout d'un coup ma déception. D'ailleurs, l'impression que mon esprit avait recherchée m'occupait moins au fur et à mesure que se rapprochait le lieu auquel mon corps allait avoir à s'accoutumer. Au terme, encore éloigné de plus d'une heure de ce trajet, je cherchais à imaginer le directeur de l'hôtel de Balbec pour qui j'étais, en ce moment, inexistant, et j'aurais voulu me présenter à lui dans une compagnie plus prestigieuse que celle de ma grand-mère, qui allait certainement lui demander des rabais. Il m'apparaissait empreint d'une morgue certaine, mais très vague de contour. À tout moment, le petit chemin de fer nous arrêtait à l'une des stations qui précédait Balbec-Plage, et dont les noms mêmes, Incarville, Marcouville, Deauville, Pont-à-Couleuvre, Arambouville, Saint-Mars-le-Vieux, Hermonville, Maineville, me semblaient étranges, alors que, lus dans un livre, ils auraient eu quelque rapport avec les noms de certaines localités qui étaient voisines de Combray. Mais à l'oreille d'un musicien, deux motifs, matériellement composés de plusieurs des mêmes notes, peuvent ne présenter aucune ressemblance s'ils diffèrent par la couleur de l'harmonie et de l'orchestration. De même, rien moins que ces tristes noms faits de sable, d'espaces trop aérés et vides, et de sel, au-dessus desquels le mot « ville » s'échappait comme vol dans pigeon vol, ne me faisaient penser à ces autres noms de Roussainville ou de Martinville qui, parce que je les avais entendus prononcer si souvent par ma grand-tante à table, dans la salle, avait acquis un certain charme sombre où s'étaient peut-être mélangés des extraits du goût des confitures, de l'odeur du feu de bois et du papier d'un livre de Bergotte, de la couleur de grès de la maison d'en face, et qui, aujourd'hui encore, quand ils remontent comme une bulle gazeuse du fond de ma mémoire, conservent leurs vertus spécifiques à travers les couches superposées de milieux différents qu'ils ont à franchir avant d'atteindre jusqu'à la surface. C'était, dominant la mer lointaine du haut de leurs dunes, ou s'accommodant déjà pour la nuit au pied de collines d'un vert cru et d'une forme désobligeante, comme celle du canapé d'une chambre d'hôtel où l'on vient d'arriver, composée de quelques villas que prolongeait un terrain de tennis et quelquefois un casino dont le drapeau claquait au vent fraîchissant, évidé et anxieux, de petites stations qui me montraient pour la première fois leurs hôtes, mais me les montraient par leur dehors habituel, des joueurs de tennis en casquette blanche, le chef de gare vivant là, près de ses tamaris et de ses roses, une dame coiffée d'un canotier, qui, décrivant le tracé quotidien d'une vie que je ne connaîtrais jamais, rappelait son lévrier qui s'attardait, et rentrait dans son chalet où la lampe était déjà allumée, et qui blessait cruellement de ces images étrangement usuelles et dédaigneusement familières mes regards inconnus et mon cœur dépaysé. Mais combien ma souffrance s'aggrava quand nous eûmes débarqué dans le hall du grand hôtel de Balbec, en face de l'escalier monumental qui imitait le marbre, et pendant que ma grand-mère, sans souci d'accroître l'hostilité et le mépris des étrangers au milieu desquels nous allions vivre, discutait les conditions avec le directeur, sorte de poussa à la figure et à la voix pleine de cicatrices, qu'avait laissé l'extirpation sur l'une de nombreux boutons, sur l'autre, des divers accents dus à des origines lointaines et à une enfance cosmopolite. Au smoking de mondain, au regard de psychologue prenant généralement à l'arrivée de l'omnibus, les grands seigneurs pour des râleux et les rats d'hôtel pour des grands seigneurs. Oubliant sans doute que lui-même ne touchait pas 500 francs d'appointement mensuel, il méprisait profondément les personnes pour qui 500 francs, ou plutôt comme il disait 25 louis, est une somme, et les considérait comme faisant partie d'une race de parias à qui n'était pas destiné le grand hôtel. Il est vrai que dans ce palace même, il y avait des gens qui ne payaient pas très cher tout en étant estimés du directeur, à condition que celui-ci fût certain qu'il regardait à dépenser non pas par pauvreté, mais par avarice. Elle ne saurait en effet rien ôter au prestige, puisqu'elle est un vice et peut par conséquent se rencontrer dans toutes les situations sociales. La situation sociale était la seule à laquelle le directeur fit attention. La situation sociale, ou plutôt les signes qui lui paraissaient impliquer qu'elle était élevée, comme de ne pas se découvrir en entrant dans le hall, de porter des knickerbockers, un paletot à taille, et de sortir un cigare ceint de pourpre et d'or d'un étui en maroquin écrasé. Tous avantages, hélas, qui me faisaient défaut. Il émaillait ses propos commerciaux d'expressions choisies, mais à contresens. Tandis que j'entendais ma grand-mère, sans se froisser qu'il l'écoutât son chapeau sur la tête et tout en sifflotant, lui demander sur une intonation artificielle « Et quels sont vos prix ? Ou beaucoup trop élevés pour mon petit budget ?» Attendant sur une banquette, je me réfugiais au plus profond de moi-même, je m'efforçais d'émigrer dans des pensées éternelles, de ne laisser rien de moi, rien de vivant à la surface de mon corps, insensibilisé comme les selles des animaux qui par inhibition font les morts quand on les blesse, afin de ne pas trop souffrir dans ce lieu où mon manque total d'habitude m'était rendu plus sensible encore par la vue de celle que semblait en avoir au même moment une dame élégante à qui le directeur témoignait son respect en prenant des familiarités avec le petit chien dont elle était suivie, le jeune gandin qui, la plume au chapeau, rentrait en demandant s'il avait des lettres, tous ces gens pour qui s'était regagné leur home que de gravir les degrés en faux marbre. Et en même temps le regard de Minos, Éaque et Radamante, regard dans lequel je plongeais mon âme dépouillée, comme dans un inconnu où plus rien ne la protégeait, me fut jeté sévèrement par des messieurs qui, peu versés peut-être dans l'art de recevoir, portait le titre de chef de réception. Plus loin, derrière un vitrage clos, des gens étaient assis dans un salon de lecture pour la description duquel il m'aurait fallu choisir dans le Dante tour à tour les couleurs qu'il prête au paradis et à l'enfer, selon que je pensais au bonheur des élus qui avaient le droit d'y lire en toute tranquillité, ou à la terreur que m'eût causée ma grand-mère si, dans son insouci de ce genre d'impression, elle m'eût ordonné d'y pénétrer. Mon impression de solitude s'accrut encore un moment après. Comme j'avais avoué à ma grand-mère que je n'étais pas bien, que je croyais que nous allions être obligés de revenir à Paris, sans protester, elle avait dit qu'elle sortait pour quelques emplettes, utile aussi bien si nous partions que si nous restions, et que je suis ensuite maître toute destinée, Françoise ayant avec elle des affaires qui m'eussent manqué. En l'attendant, j'étais allée faire les 100 pas dans les rues encombrées d'une foule qui maintenait une chaleur d'appartement et où était encore ouvert la boutique du coiffeur et le salon d'un pâtissier chez lequel des habitués prenaient des glaces, devant la statue de Duguay-Trouin. Elle me causa à peu près autant de plaisir que son image au milieu d'un illustré peut en procurer au malade qui le feuillette dans le cabinet d'attente d'un chirurgien. Je m'étonnais qu'il y eût des gens assez différents de moi pour que, cette promenade dans la ville, le directeur eût pu me la conseiller comme une distraction, et aussi pour que le lieu de supplice qu'est une demeure nouvelle pût paraître à certains un séjour de délices, comme disait le prospectus de l'hôtel, qui pouvait exagérer, mais pourtant s'adressait à toute une clientèle dont il flattait les goûts. Il est vrai qu'il invoquait, pour la faire venir au grand hôtel de Balbec, non seulement la chair exquise et le coup d'œil féerique des jardins du casino, mais encore les arrêts de Sa Majesté la Mode qu'on ne peut violer impunément sans passer pour un béotien, ce à quoi aucun homme bien élevé ne voudrait s'exposer.